qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Le week-end au Ciné-Brest de Rostrenen, l'été à Nantes, c'est là qu'il a connu ses premiers émois de spectateur. Quelques décennies plus tard, est devenu cinéaste, il le replonge dans ses souvenirs pour dessiner sa carte du tendre cinéphile. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est un vrai et grand fantasme de spectateur, choisir 100 films pour, dit-il, replonger dans mes mauvaises manières, retrouver le cinéma comme carte au trésor. Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
C'est ce que vous propose le Forum des images à Paris jusqu'au 5 décembre. 100 films dessinés sur une carte aux 4 points cardinaux ABCD comme amour, Bretagne, critique et désir. Cette carte blanche intervient alors que sort votre 13e film, Guermantes, tourné pendant 10 jours au Théâtre Marigny l'été 2020 avec une troupe du Français. Alors que les répétitions d'une pièce doivent s'arrêter, le cinéma prend le relais. Résultat, ce film libre, sauvage, est certainement, dites-vous, le plus vrai de ceux que j'ai pu tourner. Christophe Honoré, unique invité et invité multiple. À côté de Guermantes cette semaine, pas mal de monde, Balzac, Sean Penn, Greta Thunberg ou Deux enfants perdus dans la guerre. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Très bien. Vraiment, sur cette scène-là, Villeparisis, je trouve que le salon de Villeparisis, maintenant, par rapport au salon de Guermantes, il a vraiment gagné. Et je vous sens très... Je vous sens très bien, en fait, dedans. Je suis vraiment content de...
Il l'a dit. Hein.
Il l'a dit
qu'on est bien.
Oui, je ne dis pas très souvent, vous êtes très bien.
Ça veut dire parce qu'on n'est pas souvent.
Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est compliqué de dire à des comédiens, c'est bien. Il y a une différence entre vous dire des choses quand on reprend, fait plutôt pas vers là, etc. Mais cette idée d'être dans le positif ou le négatif, ou dire c'est bien, ou c'est vrai que c'est, moi c'est des mots en tout cas qui viennent pas tellement naturellement.
Donc, juste si la route est bonne. Quoi.
Ouais, voilà. Donc puis surtout vous pouvez faire deux choses absolument contradictoires et que je trouve les deux bien. Ça n'arrive pas que ce soit pas bien du tout. C'est juste différent de ce qu'on avait imaginé.
Il y a des metteurs en scène qui font une idée extrêmement précise comme ça et qui après ne dérogent pas du tout de
T'as pas l'impression que c'est des prises de pouvoir du coup sur l'acteur?
Un peu.
C'est souvent plutôt une paresse finalement de metteur en scène que d'avoir une idée précise. C'est justement ne pas être attentif à ce qui se passe et ce qui advient au moment où, que ce soit au théâtre, au moment où on répète, ou au cinéma, au moment où on tourne. Moi je crois que c'est toujours très très dangereux finalement de prétendre mieux savoir que l'acteur.
Être attentif à ce qui advient, c'est exactement ce qui s'est passé sur cette scène du Théâtre Marigny. Les répétitions de Guermantes, d'après Proust, que vous mettez en scène, Christophe Honoré, s'arrêtent. Et plutôt que de choisir la captation d'un spectacle qui n'est pas créé, vous réalisez un film portrait d'une troupe empêchée. Des acteurs, un lieu, Proust, la vie, la fiction, tout était là pour un film.
Oui, enfin je ne savais pas au moment où on a démarré, mais finalement tout était là pour... pour reprendre espoir surtout, parce que je pense qu'on sortait tous d'une période difficile et partagée par tous les Français et même d'une manière un petit peu plus large. Et c'est vrai que pour les gens de cinéma ou les gens de théâtre, en fait, il y avait une angoisse en fait de pas pouvoir se remettre tout simplement à créer et à travailler. Et donc quand j'ai retrouvé ces acteurs du Français, on était tout début juillet, ils avaient été comme ça en frustration de jouer. Et puis les acteurs du Français, ils ont ce truc très particulier par rapport aux autres acteurs, c'est qu'ils jouent normalement toute l'année. Mais vraiment, ils n'arrêtent pas de jouer le dimanche, ils peuvent jouer 3 pièces dans la même journée. Et donc ils étaient en manque en fait.
Et puis un malaise de se dire ça se jouera pas. Ils ont des milliers de mots dans la tête d'autres texte, donc il fallait bien les occuper, presque.
Surtout du Proust.
Ouais, en tout cas, ils étaient très chargés, quoi. Ouais. Et puis, c'est des acteurs particuliers aussi, parce que c'est un groupe. C'est quand même une espèce de je sais pas comment dire ça, de machine en fait, la troupe de la Comédie Française. C'est comme des internes, je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire qu'à la fois ils sont en cours, mais le soir ils sont ensemble. Et
ils sont très adolescents, je trouve.
Ils sont très très adolescents.
Ils baignent nus dans les fontaines de Paris, enfin des choses.
L'âge semble ne pas les atteindre et ils ont en tout cas un rapport. Oui, c'est un clan. Et là, en fait, du coup, ils ont été éparpillés pendant le confinement, chacun chez soi. Et là, j'ai aussi profité du fait que, se retrouvant, ils étaient pleins d'un élan les uns pour les autres, d'une sensualité les uns pour les autres, que la caméra, en fait, a réussi à capter assez facilement.
Et c'est aussi un portrait, ce film, d'un metteur en scène assez isolé, qui est vous. Il y a eux et vous. Là, je vous ai vu, vous écoutiez ce que vous disiez, mais vous tourniez la tête, vous étiez gêné. Vous êtes aussi gêné de vous voir à l'image, ou ça va?
Ah ben non, c'est abominable pour moi. Là, c'était une épreuve. Très honnêtement, j'ai jamais eu aucun désir d'être devant la caméra. Et là, le projet en fait m'obligeait à le faire. J'allais pas demander à un autre metteur en scène de venir jouer un double de Christophe Honoré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'aurait pas eu de sens. Non. Donc ça me mettait dans une très grande vulnérabilité. Et je crois qu'en même temps, ça a beaucoup profité au film parce que du coup, j'ai abandonné aussi beaucoup de. Je sais pas, j'ai partagé avec eux vraiment je sais pas comment dire ça. Je les ai pas regardés de haut, j'étais avec eux en fait. Et donc j'ai eu l'illusion à un moment que je faisais partie de ce groupe, mais exactement de la même manière que le narrateur chez Proust à un moment a l'illusion qu'il fait partie du salon de Guermantes. Et il sait bien au final que non. Mais en tout cas, ils m'ont donné cette illusion à un moment, ils m'ont fait croire, ils m'ont fait plaisir que je faisais partie d'eux.
C'est un film sur le cinéma aussi, hein, sur vous parliez de pouvoir du metteur en scène sur un plateau. Là, c'est au théâtre, mais c'est pareil, quoi.
Oui, c'est un film sur la mise en scène, en fait, je pense, malgré tout, sur le travail. Il y a quelque chose un peu comme ça de... Enfin, je dis ça aussi parce que j'ai entendu votre générique. Il y a quelque chose autour de la nuit américaine, un petit peu comme ça, d'essayer de regarder les coulisses, en fait.
Justement, à propos de la nuit américaine, on peut y aller, hein, on peut aborder ce chapitre-là, parce que on se souvient de la lettre de Godard à Truffaut, lui disant « Tout le monde couche dans la nuit américaine, sauf toi, le metteur en scène ». Vous avez ça, appliqué ça à la lettre, c'est super gonflé, Christophe Honoré. Vous êtes dans une chambre avec un acteur et voilà, vous séduisez l'acteur de la pièce,
du
film.
Très honnêtement, moi, je pense que j'ai toujours été quand même plus truffaldien que godardien. Mais malgré tout, quand j'avais lu la correspondance de Truffaut, quand j'avais une vingtaine d'années, et je me disais, mais Godard a raison, quoi. Il est hypocrite, il est lâche, Truffaut, surtout s'il avait cette histoire avec Jacqueline Bisset. Et donc, je me suis dit, là, je peux pas faire comme si le metteur en scène était asexué. Donc, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, je peux pas non plus les pousser tous à des sensualités, des rapprochements, et faire comme si le metteur en scène était une espèce de... Donc, ce metteur en scène, à un moment, en plus, il a de toute évidence une petite histoire avec un des acteurs, et puis en plus, il veut un peu s'en débarrasser rapidement, une fois que la chose est faite. Donc, c'était aussi quelque chose... Il fallait pas forcément mettre, je sais pas comment dire, trop en valeur le metteur en scène, vous voyez, ou en tout cas trop le protéger. Et voilà, et c'est comme ça que cette scène est née.
Et comme par hasard, vous remerciez aussi un certain Jean Renoir, entre La Règle du Jeu et Le Carrosse d'Or.
Oui, bah parce que je crois que le film, il... Alors, toute proportion gardée, parce que là, on parle quand même de chef-d'œuvre absolu.
C'est moi qui vous finance, donc allez-y.
Mais en tout cas, le film essaye ça, effectivement, d'interroger l'art et la vie, et comment, à un moment, en fait, des gens, et notamment des acteurs, sont peut-être les individus les plus pertinents à filmer pour interroger cette frontière-là. Comment on passe, à un moment, la frontière de la fiction. Et c'est un film que je leur avais demandé de voir, en fait, avant de tourner, French Cancan, parce qu'on parle beaucoup du Carrosse d'Or, mais French Cancan, vraiment, c'est un film génial. Moi, j'adore ce film. Et il y a quelque chose dans French Cancan aussi sur l'obstination. C'est-à-dire, c'est une troupe qui ne cesse, enfin, un groupe de gens qui ne cesse d'essayer comme ça de monter un spectacle. Et puis, à chaque fois, ça dégringole, ça dégringole. Et la persévérance, en fait, est quelque chose qui moi, m'importait et que j'avais envie, en fait, de mettre en scène dans ce film.
Ils sont tous incroyables, ces acteurs. Non, vous êtes épatés quand même par la qualité le talent des acteurs. Je disais, avant de commencer, on les voit parler entre eux ou dire un texte, c'est la même chose. C'est-à-dire que non, mais c'est intéressant parce que c'est la vie et la fiction qui se mélangent dans le film.
Ils sont très forts, les acteurs de la Comédie française. Et ce qui était étonnant, et je pense en fait c'est ça aussi qui a permis que soudain ça a été un temps un peu privilégié pour eux, c'est que vous savez, un acteur de théâtre quand même c'est toujours en maîtrise malgré tout. Et au cinéma on demande plutôt l'inverse en fait d'un acteur, une espèce d'abandon, de passivité.
Oui.
Et là, soudain, d'avoir une caméra, pour beaucoup, en fait, ils ne sont jamais au cinéma. Mmh. Vous voyez, ou très, très rarement. Vous voyez rarement Éric Genovese, Anne Kessler au cinéma, Elsa Lepoivre, alors que c'est des très grands acteurs. Le cinéma va très peu les chercher, finalement. Et là, le fait qu'il y ait la caméra, je crois qu'eux, on se sont donné une liberté de s'abandonner, justement, à cette caméra, et d'abandonner aussi un peu, toutes leurs compétences d'acteurs de théâtre. Mmh. Et évidemment, comme ils sont surentraînés, c'est comme des athlètes, tout est facile pour eux, en fait. Si vous leur demandez de sauter à 3 mètres, ils sautent à 3 mètres. Ouais. Si vous leur demandez de courir dans moins de... ils le font très facilement.
C'est un sacré film et c'est un sacré doc sur la Comédie française. Oui. Incidemment, hein, vraiment, c'était pas votre but, mais en tout cas, on voit à l'intérieur les acteurs au travail, un cinéaste au travail. C'est passionnant, ça s'appelle Guermantes, c'est sorti mercredi.
Allez le voir.
Cinéaste, vous avez décidé de le devenir très tôt, vous dites en 6e ou en 5e. En regardant des films ou un film en particulier ou pas?
Déjà en regardant ce que mes parents ne regardaient pas, tout simplement. Et à un moment, c'est comme ça en fait. Je crois que ça se construit, la cinéphilie, c'est un rapport à la solitude. C'est-à-dire à un moment, vous vous retrouvez seul dans des salles où vous avez l'impression que personne ne va voir ces films-là. Et moi, c'est vrai qu'à Rostrena, parce qu'on dit Rostrena et pas Rostrenen, je vous rattrape. Il y avait ce Ciné-Brest où il y avait justement ces deux séances à 20h30 où c'était plutôt L'As des As, les Pierre Richard et que j'allais voir avec mes copains parce que c'était l'occasion de rouler des pelles un peu quand même à l'époque, d'aller au cinéma. Et puis je me battais avec mes parents pour aller à 22h30 voir soudain des films qui soit étaient interdits aux moins de 13 ans ou soit étaient des films soudain plus... plus d'arrêt essai. Et c'est là où je me souviens d'avoir vu Paris Texas par exemple en 84 je dirais et où j'avais fait une critique dans le journal du collège pour essayer d'expliquer à mes copains qu'il fallait absolument aller voir Paris Texas et très honnêtement ils étaient pas nombreux et je pense que même j'étais un peu tout seul dans cette salle là le vendredi soir où j'ai vu Paris Texas. Donc je crois que c'est un rapport à la solitude qui à un moment vous identifie comme un spectateur privilégié, et de spectateur privilégié, à un moment, vous vous mettez à rêver de faire partie de ce monde qui est un monde du cinéma, qui pour moi était un monde forcément parisien, et petit à petit, c'est comme ça que ça se cristallise, je crois, le désir de faire du cinéma.
Tous ces souvenirs ont dû remonter à la surface quand le Forum des Images à Paris vous a proposé cette carte blanche jusqu'au 5 décembre, 100 séances pour raconter votre passion. Donc c'est drôle, cet abécédaire, ABCD, donc amour, Bretagne, critique, désir, on l'a pris à la lettre. On va commencer par l'amour. Donc, vous dites, pour retrouver l'état amoureux qui prévalait lors de la découverte de ces films vus entre l'âge de 15 et de 25 ans, eh bien, on va commencer par celui-là. Ça vous dit quelque chose?
Ah, ça fait des blind tests. Oh non, vous êtes trop dur, là.
C'est la loi du désir.
Oui.
Bravo. Allez, un point.
La loi du désir, Almodovar. Vous vous souvenez quand vous l'avez vu?
Ce que je me souviens très bien dans la loi du désir, c'est quand je l'ai vu, j'étais étudiant. J'étais étudiant à Rennes et j'avais écrit au cahier du cinéma en fait une lettre sur la loi du désir parce que je trouvais qu'ils avaient évacué le film dans une notule et ils avaient publié mon courrier. Et donc ça pour moi c'était un acte de gloire en fait quand j'étais étudiant à Rennes. La loi du désir, je me souviens, c'était une rétrospective parce que on a découvert un petit peu Almodovar en France plutôt avec Femme au bord de la crisonnière. Mmh. Il me semble que la loi du désir est sortie après.
Voilà. Ouais. Comme Matador, effectivement.
Quand vous êtes cinéphile, quand vous êtes homosexuel et que vous avez 17, 18 ans et que vous découvrez la loi du désir, c'est juste le film exact où vous voulez habiter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez l'impression que là, soudain, il y a une... Je sais pas, il y avait une liberté, il y avait une sensualité, Antonio Banderas. Le film, je sais pas si vous vous souvenez, était tellement drôle. Ça démarrait dans une séance de doublage, en fait, sur une scène assez sensuelle entre un jeune homme et puis un homme un peu plus âgé. Puis en fait, on s'apercevait que c'était doublé par deux espèces de vieux retraités qui jouaient plus ou moins aux cartes tout en disant, en fait, le film était... C'est un grand film, hein, d'Almodovar, et ça me permet de dire, enfin, on a tellement de la chance en Europe d'avoir Almodovar, quand même. Oui. C'est quand même, moi je pense, c'est devenu le cinéaste le plus important, en fait, du cinéma européen en activité. C'est toujours idiot de dire ce truc, il se réinvente à chaque film. Lui, il se réinvente jamais à chaque film. C'est-à-dire, chaque film ressemble à La Loi du Désir ou ressemble à ses tout premiers films. Ouais. Donc, c'est pas une réinvention, c'est juste qu'il règne d'une manière très très forte.
Ouais. La Bretagne, c'est le deuxième mot de passe. Donc vous êtes originaire de Rostrenin, donc. Vous dites, je suis reconnaissant à la Bretagne de m'avoir fait vivre une enfance assez ennuyeuse. L'ennui a permis de rêver, de cultiver mon imaginaire. Vous êtes aussi ennuyé, vous êtes vraiment ennuyé là-bas.
Bah c'est terrible. Moi, j'habite pas dans le coin de Bretagne où il y a la mer. Vous voyez, ouais, j'habite vraiment au centre Bretagne, Rostrenin. Honnêtement, c'est une ville moche. C'est la ville la moins ensoleillée de France.
Ouais.
Mais vraiment, elle est dans le top dans le Guinness Book, en fait, comme la ville la moins ensoleillée.
Donc c'est parfait pour le cinéma, pour les salles obscures.
Bah en tout cas, c'est parfait pour l'ennui. Et donc c'est vrai que du coup, vous ne pouvez que rêver de partir ailleurs. Maintenant que j'ai quitté la Bretagne, j'adore y retourner, mais à l'époque, j'avais l'impression d'être dans un caveau.
Avec Jacques Demy, vous avez découvert qu'on peut être cinéaste et breton.
Bah ça, c'est parce qu'en fait, ma grand-mère était de Nantes, ouais. Et donc je m'échappais l'été et j'allais la rejoindre à Nantes, et elle me laissait une grande liberté, et c'est comme ça, lors d'une rétrospective, en fait, au 14A, que j'ai découvert Lola, et je suis rentré, j'ai dit à ma grand-mère, elle m'a dit, je crois me souvenir, en fait, que quand j'étais jeune, j'avais vu ce tournage, etc. Et on a commencé à faire le pèlerinage pour aller retrouver les lieux, ouais, en fait, où Demy avait tourné. Et donc là, je me suis dit, oui, donc, c'est pas en fait une calamité d'être breton pour être cinéaste. On peut être cinéaste et breton.
C'est drôle parce qu'on vous prend souvent pour un cinéaste bobo parisien.
Oui, bah ça c'est pas très grave. Bah c'est normal. Non, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé à Paris, ouais, et que j'ai travaillé beaucoup aussi avec des acteurs
germano-pratins.
Voilà, qui habitent un peu à Saint-Germain, et certainement aussi parce que justement moi je vois Paris toujours un peu comme un territoire de fiction. Et puis je suis devenu par la force des choses, ça fait 25 ans à Paris. Et je crois, en même temps, c'est drôle parce que justement, là, moi, j'ai fait une pièce qui s'appelle Le Ciel de Nantes, qu'on n'a pas pu jouer, qui est à l'Odéon, et qu'on va jouer finalement, en fait, au mois de mars prochain à l'Odéon, et où c'est ça. C'est ma famille de Bretagne qui vient me faire le reproche que j'ai jamais fait un film eux, que j'ai jamais fait un film sur le milieu social d'Ougien, etc. Et où j'essaye, en fait, de leur dire que c'est pas du tout que je les dénigre, c'est juste que je ne me l'autorise pas. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait que du coup j'ai toujours filmé des classes sociales finalement qui ne correspondaient pas à ma classe d'origine.
Dans votre chapitre Bretagne au Forum des Images, nous avons choisi ce film-là, L'amour d'une femme, Jean Grémillon, tourné à Ouessant, qu'on voit vraiment très beau, à travers les cérémonies religieuses. L'histoire de Marie Prieur, c'est Micheline Prel, qui arrive comme nouveau médecin. Elle s'éprend d'un ingénieur de passage et devra choisir entre cet homme et son métier. Extrait avec Gaby Morlaix.
Qu'est-ce qui ne va pas? Vous, Marie, ça me désespère de vous voir faire tant de bêtises. Je ne fais rien de mal? Ah non, je suis en train de démolir votre situation pour une histoire sans lendemain. À part ça, vous ne faites rien de mal. Je n'ai pas le droit de vivre? Si, Marie, mais pas à n'importe quel prix quand on est ce que vous êtes. Vous avez fait des années d'études, vous êtes une vraie valeur, vous avez réussi à vous imposer ici, et vous gâcheriez tout ça pour un garçon qui ne pense qu'à s'amuser. Vous êtes injuste. Et même s'il vous épousait, est-ce que ça vous donnerait la certitude de le garder éternellement? Nous n'avons jamais parlé de mariage. En tout cas, votre métier, il est à vous, lui. Et pour toujours.
En 1954, Christophe Honoré, sacré discours, hein, féminin, féministe.
Ah ouais, c'est très très beau. C'est Jean Grémillon, c'est vraiment un très grand cinéaste. Alors après, ils sont nombreux à être venus un peu comme ça en Bretagne, mais Grémillon, il l'a fait plusieurs fois. Et il y a un petit côté pagnol breton, en fait. Ouais. Vous voyez, sauf que il y a pas l'accent.
Le pittoresque en moins.
Ouais, le pittoresque en moins. Et en même temps, j'admire vraiment Pagnol en tant que cinéaste. D'accord. Mais vous avez raison, la modernité du jeu dans cet extrait.
Du discours.
Voilà, la délicatesse, en fait, et la subtilité du jeu. C'était un très grand directeur d'acteur, Jean Grémillon.
Il n'y a pas assez de films qui se tournent en Bretagne, et c'est si beau la Bretagne.
Bah parce vous avez fait quand même, non ma fille, tu n'iras pas danser. Ouais, on finira par croire que vous ne l'avez pas fait. Celui-là,
si,
vous l'avez
si,
fait
mais
quand même.
Celui-là, je l'ai fait, mais c'était...
Avec au centre du film, quand même, une scène bretonne incroyable.
Très honnêtement, oui, je l'ai fait. Enfin, pas que pour ça, parce qu'il y a Chiara dedans et tout ça, mais je voulais absolument, à un moment, moi, essayer de faire un conte breton. Et je me souviens que j'avais menti quand même un petit peu à mon producteur d'alors, chez Why Not, parce que... et je lui avais dit, donne-moi juste 2 jours pour faire ce truc-là. Et puis, la première fois que j'ai montré le montage, en fait, ce conte breton prenait 20 minutes dans le film. Et il m'a vraiment regardé en me disant mais vous foutez de moi. Et j'ai dû lutter en fait pour garder ce cœur secret qui pour moi était le cœur essentiel de mon film.
C'est comme critique, vous l'avez été au cahier et vous avez beaucoup de modèles, dont Serge Danet. Vous dites, je déteste les œuvres de didactiques portées par des mots d'ordre. Vous avez été un critique sévère, Christophe Honoré?
Oh, j'ai été un critique idiot, comme... Parce que j'ai été un critique qui était un jeune homme qui voulait faire des films. Donc forcément, la manière dont je parlais des films était toujours un peu arrogante, envieuse, vous avez raison, et souvent assez déloyale, notamment par rapport au cinéma français. En même temps, très honnêtement, j'ai eu la chance de pas être vraiment critique. C'est-à-dire que quand Serge Toubiana, moi j'ai commencé à publier quelques romans, m'a proposé de rentrer au cahier du cinéma, j'ai jamais fait partie du comité de rédaction, j'ai jamais écrit une vraie critique dans le cahier critique. J'écrivais des espèces de chroniques comme ça, un peu fiction, un peu autour, qui s'appelait Le Billet du Spectateur, qui racontait un peu une manière de voir les films, des séances, voilà. Mais oui, il y a des choses que j'ai écrites qui sont sans beaucoup d'intérêt, mais...
Et vous regrettez ?
Oh non, je regrette pas. Non, parce que au fond, je les ressentais vraiment... Et c'est pas très grave, même si moi, maintenant, en tant que cinéaste, des fois, ça peut me pourrir une heure ou deux de lire une mauvaise critique. Moi, je crois beaucoup à la critique. Je crois beaucoup que notamment le cinéma d'auteur et le cinéma d'auteur français ne peut être sauvé, parce qu'on en est là quand même, on est vraiment en péril, que par un renouvellement de la cinéphilie, et que ça passe par les critiques. Et je suis assez atterré, en fait, qu'aujourd'hui, souvent, sur les critiques, on le voit bien, il y a une pression dans les journaux, etc., on leur demande en fait de ne plus parler du cinéma d'une manière spécialisée. Je sais pas comment dire ça. Moi, je connais rien au foot, donc si j'ouvre l'équipe et qu'on va me raconter un compte rendu d'un match, je comprendrai pas. Et ben, je trouve qu'en fait que on devrait demander et laisser les espaces aux critiques pour être beaucoup plus pointus que ce qu'ils sont, pour que vraiment les gens qui s'intéressent au cinéma, en fait, à un moment, se sentent, je sais pas comment dire ça. Autrement, enfin, vous voyez, là, il y a un discours critique qui se dilue un peu trop et qui est une pression, hein, qui est mise sur les journalistes. Attention, là, ton texte, il est trop pointu. Attention, là, il y a trop de références, etc. Et je pense qu'au contraire, il faut revenir à ça. Et je crois vraiment que de toute façon, ça s'accompagne d'un mouvement commun. On voit bien que la place des cahiers critiques dans les journaux, dans les quotidiens, elle est réduite, dans les radios, et que au bout d'un moment, ben, ça accompagne aussi une espèce de désintéressement en fait autour du cinéma.
Dans ce billet du spectateur que vous aviez au cahier du cinéma, vous avez notamment écrit sur ce film qu'on aime beaucoup, J'ai horreur de l'amour, de Laurence Ferreira Barbosa. Annie Simonin, médecin généraliste, Jeanne Balibar tente d'affronter la réalité entre un persécuteur hypocondriaque qui la menace de mort et un jeune homme séropositif. On écoute un extrait.
Normalement, Jean-Jacques et moi, on devait passer notre vie ensemble. J'ai 34 ans, je veux pas être ce genre de femme qui pense à refaire leur vie.
J'ai beaucoup souffert d'être aimé.
On n'est jamais trop aimé.
Oh, si, si. Je souhaite ça à personne.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Vous êtes bien curieuse. J'ai remarqué que les femmes adoraient qu'on leur raconte des horreurs à propos d'autres femmes.
Là, vous allez un peu vite. C'est vous qui avez abordé le sujet.
D'accord. Ah, alors rien. C'était une femme que je voulais à tout prix, et quand je l'ai eue, j'ai tout de suite compris que j'étais en danger.
Comment ça?
Elle venait tout le temps m'assassiner avec son amour. Un jour, elle s'est arrachée devant moi une mèche de cheveux en disant quelque chose comme « Tu vois à quel point je t'aime ».
Un amour comme ça, c'est impressionnant.
J'étais terrorisé. J'ai rassemblé mes dernières forces et je l'ai foutu à la porte. Un instinct de survie, j'ai sauvé ma peau. Non, franchement, l'amour, la passion, j'ai horreur de ça.
J'ai horreur de l'amour. Ça, c'est la critique est super importante pour des films comme ça, des films funambules.
Oui, elle est super importante et elle serait super importante pour faire en sorte que Laurence Ferreira-Barbosa puisse refaire encore des films aujourd'hui parce que elle fait partie justement de toute une génération de cinéastes qui, moi, m'ont précédé. Vraiment, dans les années 90, il y a eu une émergence comme ça de beaucoup de nouveaux talents. Et notamment, il faut bien l'avouer, chez les cinéastes femmes, en fait, elles ont eu plus de mal en fait à s'installer. Et non pas parce qu'elles manquaient de talent, hein, pour le coup. Je pense que vraiment, là, elles ont souffert en fait d'une...
Une question de timing, presque. C'est horrible.
Ouais, je sais pas si c'est qu'une question de timing. En tout cas, une idée qu'à un moment, leur sujet était peut-être trop... on les a soupçonnés que leur sujet n'était pas intéressant, ce qui est faux. Absolument.
Fou, ouais.
Ce film, en même temps, en réécoutant, je me souviens très bien que la première fois que je l'ai vu, en fait, j'étais à distance. C'est vraiment un film que j'ai aimé en le revoyant. Et je suis pas sûr que, d'ailleurs, dans ma critique des Cahiers du cinéma de l'époque, enfin, dans ma chronique, je sais plus à quel moment j'en étais de mon rapport au film, si je l'avais revu ou si c'était la première fois. Mais et puis Jeanne Balibar quand même
sur son scooter en train d'écouter du Joe Dassin, ça c'est merveilleux.
Elle était sensationnelle parce qu'à la même époque à peu près ou très peu de temps après, elle faisait le Rivette, le Va Savoir. On venait de la découvrir chez Desplechin dans Comment je me suis disputé. C'était quand même une actrice comme une actrice insensée. Et puis après tout son travail avec Mathieu, et c'est chez Biette aussi, c'est terrible à dire parce que rien que de l'entendre avec cette voix-là, c'est comme si on évoquait une autre époque, en fait, les années 90, qui pour moi, alors certainement aussi parce que ça correspondait à mes 20 ans, mais était une espèce d'âge d'or d'un cinéma d'auteur français qui était encore très libre et qui pouvait être très qui pouvait chercher vraiment dans des directions très diverses.
Au forum, il y aura des tables rondes autour de la critique. Comment ça va se passer ?
Ouais, on a essayé d'organiser des séances. Alors déjà, on a fait une table ronde avec des attachés de presse, parce que je trouve que les attachés de presse sont vraiment souvent les premières personnes en fait qui ont un discours sur les films, et que du coup, ça m'intéressait de les faire parler en fait de leur rapport au film, comment elles découvrent un film, parce que c'est souvent la première personne qui vous parle de votre film en tant que cinéaste, une personne qui n'a pas participé à la construction du film. Et c'est toujours assez intéressant les premiers mots qu'une attachée de presse vous dit sur votre film.
Et c'est bien de leur rendre hommage, parce que Dieu sait si cette profession a souffert pendant la Covid. C'est la profession du cinéma qui a peut-être le plus souffert.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis après, j'ai proposé à des critiques justement de venir en fait parler de films qu'ils ont sur lesquels ils ont écrit il y a 20 ou 30 ans et d'essayer de leur dire est-ce que une critique au présent serait pas possible, parce que on change forcément dans notre rapport à un film, et que je trouvais assez intéressant en fait, non pas de leur dire tu t'es trompé ou tu t'es pas trompé, mais plus de leur dire qu'est-ce que aujourd'hui en fait ils pensent en revoyant un film 20 ou 30 ans après.
Quatrième chapitre, et quel chapitre, c'est dit comme Désir, une vingtaine de films où la ronde des cœurs et des corps épouse toutes les formes, tous les rythmes et jamais ne s'épuise. Ben nous, dans ce chapitre-là, on a choisi vivement Dimanche.
Tout ce que j'ai fait, c'était pour les femmes. Parce que j'aime les regarder, les toucher, les respirer, jouir d'elles et les faire jouir. Les femmes sont magiques, monsieur Lablache. Alors je suis devenu magicien. Et d'ici une minute, il y aura un nouveau cadavre dans cette affaire.
1983, vous l'avez découvert à la sortie, vous aviez 13 ans.
Non, je pense que je l'ai découvert après.
Le désir traverse tout ce film, Laurent.
Avec cette phrase notamment, mais évidemment, c'est Truffaut qui parle. Hein.
Ouais, c'est Truffaut qui parle, et puis c'est très émouvant parce que nous, on sait que c'est le dernier film aussi de Truffaut, et que la manière dont il filme Fanny Ardant, avec qui il avait une histoire en fait, et comment il partage son désir avec le spectateur en fait. Et ça, c'est pour moi toujours très très troublant. Et sur ce, ça fait partie en fait des séances inachevées. Chez nous, on l'a déjà fait samedi dernier
avec les roseaux sauvages.
Avec les roseaux sauvages, en fait, je suis un peu teigneux, c'est-à-dire que c'est autour du désir et de cette idée que je crois qu'en tant que spectateur, on peut avoir des rapports au film qui sont le désir qu'on peut avoir d'un film avant de le voir, ou même quand on l'a vu, en fait, ne correspond pas forcément à la totalité du film. Donc là, par exemple, sur Les Roseaux Sauvages, en fait, les gens sont venus voir Les Roseaux Sauvages et on a arrêté le film avant la dernière bobine.
Mais non.
Si. Et je suis arrivé sur scène, en fait, pour parler à ce moment-là aux spectateurs. Et en fait, j'ai fait venir Stéphane Rideau et Gaëlle Morel, qui sont venus raconter la fin du film.
Les deux acteurs du film.
Et donc, c'était à la fois très proustien, très émouvant. Et très honnêtement, je pense que c'est pas du tout dénigrer le film de Téchiné, mais si je me suis permis de le faire aussi, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans une collection justement pour la télé, et qu'il y avait une version qui s'arrêtait à la fable quand c'était passé à la télé, au moment du Chêne et le Roseau.
Ouais.
Oui. Et un film peut exister dans différentes durées. Et là, il y avait quelque chose d'assez émouvant de voir Stéphane et Gaël venir nous raconter la fin du film, comment ils n'ont pas passé le bac, comment Élodie Bouchez a finalement couché avec le garçon, comment après elle se jette dans les bras de Gaël à la fin, etc.
Vous ne demandez pas aux spectateurs ce qu'ils imaginent comme fin, plutôt ?
Ah non, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait.
Bah ouais, ça serait intéressant quand même.
Vous voyez, il y a plein de séances à inventer.
Et Vivant Dimanche, ça fera quoi alors ?
Ouais. Bah, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est évidemment. Mais par exemple, sur l'idée du désir, ce soir, en fait, on fait au Forum une soirée qu'on appelle Crystal Stendhal, où l'idée, en fait, c'est... Je vais arriver en fait en parlant d'une idée de film que j'ai et je vais la partager avec le spectateur et puis après je vais venir Chiara Mastroianni et je vais d'abord en fait je démarre avec une conversation avec mon producteur. Il n'est pas au courant de comment je lui présenterai le film, voilà, et si on faisait un film là-dessus. Et puis après avec Chiara Mastroianni qui sera là, en fait je vais essayer aussi de lui dire, de lui parler d'un film et d'un rôle. Et puis après avec mon chef-op, je vais lui montrer des images, etc. Et on va essayer de rêver comme ça, de cristalliser autour d'un film imaginaire pendant une heure et demie en fait, et de partager avec le spectateur cette idée d'un film qui pourrait avoir lieu mais qui ne sera certainement jamais tourné.
Et puis il y a des projections. Alors il y a aussi des projections. Un film est écouté dans le noir absolu. C'est quoi ça ?
Bah ça c'est pour le désir aussi justement. C'est que je pense que écouter un film n'est pas la pire manière de le voir.
Non.
Oui, c'est ce bien ici à la radio.
Et que souvent en fait c'est très très étonnant en fait quand vous ne regardez plus un film et que simplement vous l'entendez. Et puis aussi c'est un truc lié à l'enfance, c'est que moi je me souviens quand même les soirs où mes parents regardaient à la télé, j'étais censé être à l'étage dans ma chambre, puis je descendais dans les escaliers et il y a beaucoup de films que je n'ai qu'entendu en fait et qui passent, dont le son passait à travers la porte et je n'ai jamais vu le film. Et donc je crois beaucoup en fait à cette idée que l'imaginaire au cinéma est lié beaucoup plus à la bande son finalement qu'à l'image.
C'est au Forum des Images à Paris jusqu'au 5 décembre, une super programmation avec plein d'idées folles, des dispositifs singuliers jusqu'au 5 décembre.
Magnifique.
On se reparle des autres films qui sortent cette semaine à côté du vôtre, Guermantes, après Juliette Armanet, Le dernier jour du disco.
C'est la fin. Le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin ne nous lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Les statues des reins coulent dans leur chagrin.
Exercice critique avec un critique à côté de nous, cinéaste. On va commencer par Eugénie Grandet de Marc Duguin. Un classique de la littérature française, Honoré de Balzac, le calvaire d'une jeune fille sous le joug d'un père dont l'appât Duguin la transforme, elle, en monnaie d'échange, celle de sa dot. Dénonciation du patriarcat, parcours vers l'émancipation, honnête adaptation, heureusement tenue, portée et même, moi je trouve, sauvée par un immense acteur qui est Olivier Gourmet.
Oui, moi le problème que j'ai, c'est qu'il y a deux films en fait. Il y a un premier film dont vous venez de parler qui est une très belle, très honnête adaptation de Balzac avec effectivement un casting éblouissant emmené par Gourmet. Mais on peut aussi parler de Camille Chappy, de Valérie Bonneton, de François Martouret, de Nathalie Bécu, de toutes les trônes balzaciennes qui sont très bien, très réussies dans le film. Les décors aussi, l'ambiance provinciale confinée, l'avarice du personnage principal, tout ça est très très bien rendu. Et tout d'un coup, ça bascule dans ce qui n'est pas dans le roman de Balzac, donc c'est quand même très embêtant, c'est-à-dire une sorte de dénonciation hyper moderne du patriarcat. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, alors évidemment, c'est librement adapté, hein, c'est mis comme ça dans le générique. Alors on comprend le librement, effectivement, parce que à ce point-là, tordre dans l'autre sens Balzac, évidemment, Balzac n'était pas pour la destruction du patriarcat, ce serait à la fois du révisionnisme et de l'anachronisme total. Alors on se demande pourquoi on amène Balzac sur ce terrain-là. Peut-être Marc Duguin aurait-il pu faire un film moderne sur ces questions-là qui sont évidemment très intéressantes. Mais tordre à ce point-là Balzac dans ce sens-là, c'est pas bien. Je dirais que c'est pas bien. Voilà.
After Love, un premier film anglais signé Alim Khan. En perdant son mari, Ahmed, capitaine de ferry entre Douvres et Calais, Marie découvre qu'il avait en France une maîtresse, Geneviève. Elle part à Douvres, la rencontrer et devient à la suite d'un quiproquo sa femme de ménage. Entre dans la maison et l'intimité de l'autre vie de son mari. Elle n'ose rien dire, devra vivre presque le deuxième deuil d'un homme qu'elle ne connaissait pas et peu à peu accepter dans la peine ce mensonge. Ce qui aurait pu être un terrible mélo se transforme en exercice d'équilibriste dans les non-dits, les émotions retenues grâce non pas à la mise en scène qui est plutôt classique, linéaire, mais au jeu extrêmement subtil des deux comédiennes, Johanna Scanlan et Nathalie Richard. Hein, Nathalie Richard qui apporte humanité et crédibilité à cette situation complètement insensée, ça s'appelle After Love. J'ai aimé vivre là, alors, un documentaire de Régis Soder, une déambulation politique dans une ville nouvelle, Cergy, le lieu de résidence de l'écrivaine Annie Ernaux.
Oui, alors après, notamment, Nous, Princesse de Clèves et Retour à Forbach, deux très très beaux documentaires précédents de Régis Soder, ben, il nous offre là, effectivement, dans une sorte de continuité, d'ailleurs, avec Forbach, un portrait de cette ville, Cergy, avec cette citation, notamment, d'un habitant à qui on a dit un jour que c'était un non-lieu, Cergy Pontoise, donc, et lui dit, ben, si c'est un non-lieu, nous on est des non-personnes, donc ça va pas. On n'est pas des non-personnes, on existe vraiment. C'est le propos de d'Annie Ernaux dans un livre, parce qu'elle habite là depuis des années. Et Régis Soder, très intelligemment, mêle le regard d'Annie Ernaux, évidemment inspiré, avec le parcours, le regard, la quotidienneté d'un certain nombre d'habitants de Cergy-Pontoise. Et ben on s'aperçoit que, évidemment, sous le béton de la ville nouvelle, des cœurs battent. Vous savez, on se rappelle la scène dans Les Visiteurs du soir où le diable bat avec un fouet une statue de pierre, ben voilà, et il entend le cœur de la pierre derrière. Ben c'est ça qu'on entend aussi dans ce très beau film de Régis Soder qui s'appelle J'ai aimé vivre là.
Et c'est très grand cinéaste, Régis Soder. Ouais. Quand
merci.
Même.
Et cette habitante qui dit un truc très fort, Cergy m'a aidé à me construire.
Tout à fait, bien sûr. Il y a des phrases absolument formidables, oui, sur cette ville.
Flag Day de Sean Penn, difficile de faire pire que le précédent The Last Face, un mélo roman de gare grotesque sur fond d'intervention humanitaire. Alors, en comparaison, cette histoire d'amour manquée entre un père et sa fille semblera moins putassie à nos yeux, quoique Penn se perd dans des flashbacks romantiques et des sessions contemplatives à mourir d'ennui, des affaîtris de mise en scène censées mettre en valeur sa vraie fille dans la vie d'Ilan Penn, au ralenti, fiévreuse, pleureuse, en gros plan, filmée en 16 mm, un grain nostalgique des 70s.
Je crois qu'on va en rester là.
Oui. En route pour le milliard de Dieudo Amadi, 1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice. Les membres de l'association des victimes de la guerre des six jours de Kisangani depuis 20 ans se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation.
Formidable documentaire, vraiment, c'est très très beau parce que à la fois il y a une sorte de reportage sur cette bande d'infirmes déclopés de façon incroyable, ils n'ont plus de jambes, ils n'ont n'ont plus de bras, enfin, et ils vivent évidemment dans des conditions abominables. Or, ils affichent une incroyable vitalité qui fait qu'ils dansent, qui fait qu'ils chantent et qui fait qu'ils vont effectivement aller jusqu'à la capitale pour réclamer au bout de plus de 18 ans leur simple dû, qui est en plus budgété depuis des années, mais qui ne leur parvient décidément pas. Et là où ça fait encore plus cinéma, c'est que le réalisateur Diodo Amadi mêle à ce reportage quasiment, à cette façon très très proche qu'il a de mettre sa caméra par rapport à ce qu'il filme, eh bien il reconstitue certaines scènes sur la scène d'un théâtre, des scènes d'hôpital notamment, et ça donne une immense humanité qui est présente tout au long du film. C'est jamais lourd, c'est toujours accablant. Voilà ce qu'on peut dire de ce très beau documentaire En route pour le milliard de Diodo Amadi.
La traversée de Florence met elle un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l'exil. Kiona et Adriel tentent d'échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément au cours d'un voyage initiatique qui les mènera de l'enfance à l'adolescence. Et de la peinture animée sur plaque de verre, c'est formellement magnifique et dans le fond tendre, poétique et saisissant sur l'aventure de ces enfants qui pourraient être afghans, syriens, maliens.
Oui, on songe pour l'esthétique à Chagall, souvent. On songe aussi au travail de Sébastien Lodenbach, un autre grand animateur français, qui fait dans le mouvement permanent, le non défini. C'est très très beau. Jean-François Laguillonni pour des relations plus picturales et des intentions plus picturales. C'est coécrit avec Marie Desplechin, donc là il y a aussi du fond, comme vous le dites. Donc franchement, cette forme d'animation qui a mis beaucoup de temps. Hein. C'est un film qui a vraiment été difficile à faire pour la réalisatrice, mais Dieu qu'on est heureux de voir ce genre de choses sur un grand écran, et il faut aller impérativement le voir sur un grand écran aussi. C'est pas fait pour les petits, hein, très honnêtement, c'est assez dur et tendu à certains égards.
I Am Greta, documentaire de Nathan Grossman qui a suivi pendant des mois Greta Thunberg, peut-être pour découvrir qui se cache derrière l'icône planétaire, Laurent.
Oui, le problème c'est que plus empathique tu meurs, quoi. D'ailleurs, c'est un film de fans pour des fans, c'est-à-dire je ne crois que ça ne fera changer d'avis personne sur Greta Thunberg, parce que c'est trop, et il n'y a pas cette interrogation quand même finalement centrale, peut-être la plus intéressante. C'est quoi cette société qui délègue à une enfant le rôle de la conscience, alors que l'enfance a priori c'est quand même l'inconscience, hein, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette société, qu'est-ce que ça veut dire? Ces questions-là, on les pose pas, parce que c'est pas évidemment le propos du film, qui est une sorte d'agiographie très révérencieuse sur Greta Thunberg. C'est dommage.
Cette musique ne joue pour personne, de Samuel Benchetri. Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie et l'art. C'est un beau sujet, ça.
Oui, alors évidemment, on pourrait faire le malin en citant le titre. Cette musique ne joue pour personne. Ah, non. Et voilà, on le fera pas. On le fera pas parce qu'on n'est pas comme ça ici. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que Benchetri, à force de cultiver le surréalisme comme d'autres les carottes, c'est-à-dire avec application et sans véritable fantaisie, ben ça donne ça. C'est-à-dire, ça donne ce résultat improbable de trois histoires dont il se fiche absolument éperdument, manifestement.
Mais tellement... il ne peut pas se ficher des histoires qu'il raconte.
Ben si, il s'en fiche. Si, c'est très décousu. Si, je pense vraiment qu'il s'en fiche, parce qu'il est fasciné par son casting. Alors évidemment, il y a tout le monde est convoqué, hein, presque McCain, Vanessa Paradis, enfin tout le monde est là, mais tout le monde ne joue rien. Enfin tout le monde joue cette espèce d'absurdité qui est posée comme quelque chose de formidable d'entrée de jeu. Ah, être absurde, c'est génial. Oui, mais quand on est paresseux pour montrer l'absurdité, ben ça marche pas.
Heureusement, il y a Les Intranquilles de Joachim Lafosse, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, une très belle histoire d'amour avec deux sacrés acteurs, Leïla Bekti et Damien Bonnard, donc grand cinéaste Lafosse. C'est l'un de ses plus beaux films, d'ailleurs.
C'est vrai.
On va terminer avec un festival et des cadeaux pour Christophe Honoré.
Deux petits films aussi, quand même. Jean Vigo, L'étoile filante, il faut aller voir Jean Vigo. La Talente, Zéro de conduite, À propos de Nice, Tarif sous la natation. Ce qui est bien avec Vigo, c'est qu'on a vu son intégrale avec quatre films. Ça, on peut dire, j'ai vu tout Jean Vigo. Moi, monsieur, j'ai vu tout Jean Vigo. Bon, ben là, ça marche, effectivement. Non, très honnêtement, allez voir ces films, parce que sur grand écran, c'est tellement merveilleux. Il y a un après, il y a un avant et un après Jean Vigo, je pense, dans le cinéma français. Et puis, tenez, on parlait tout à l'heure de Jean Grémillon. Il y a un autre film de lui qui ressort là aussi sur grand écran, c'est Le ciel est à vous.
Vous l'avez vu ou pas, Christophe Honoré?
Merveilleux là aussi sur la façon dont il s'empare du masculin et du féminin et dont il dynamite tout ça en douceur. Charles Valen, Madeleine Renaud, c'est extraordinaire d'intelligence. Le ciel est à vous, ça ressort.
Sur l'épouse d'un garagiste qui va devenir pilote.
Exactement, c'est l'histoire. Alors, l'histoire absolument improbable, l'histoire comme ça sur le papier. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, allez le voir, vous serez éminemment séduit par l'histoire et les personnages et les caractères.
caractère.
Festival de Bastia.
Oui, nous serons à Bastia avec le festival Art et Marée jusqu'au 9 octobre avec une formidable thématique, l'argent de Bresson à Becker, en passant par bien d'autres qui, l'herbier notamment, bah oui, le fric, l'argent, l'oseille, il n'y a que ça dans le cinéma, presque.
Et enfin, un beau cadeau pour notre invité.
Ouais, alors on a essayé de trouver son film, on n'a pas réussi, mais on vous en offre quand même 18, et ils sont de Douglas Sirk.
Ah, bah, oui, ils ont ressorti encore un coffret.
C'est un peu sur du velours. Vous savez, Fassbinder disait, peu importe Godard, Fuller, moi ou un autre, aucun de nous ne peut arriver à la cheville de Douglas Sirk. C'est effectivement de formidables films, de formidables mélos. Il y a un petit livre avec, il y a des bonus merveilleux. Voilà, on est très heureux de vous offrir ce coffret qui est édité par Éléphant de Film, qui fait décidément de belles éditions intelligentes. Voilà.
Il y avait des.
Merci beaucoup.
Il y avait des Douglas Sirk aussi, des Brest de Rostre. Non.
Non.
Ah là, c'est. Ouais, non, ça a mis du temps à
Douglas
venir,
Sirk, c'est vraiment venu beaucoup plus tard.
Ouais. Par la télé, beaucoup.
Ouais. Cinéma de Minuit, même beaucoup c'est fait la pour Cinémathèque, Sirk. En fait, où j'ai commencé à découvrir Douglas Sirk.
Merci beaucoup Christophe Honoré.
Merci à vous.
Guermantes est sorti mercredi. Il y a cette carte blanche au Forum des Images jusqu'au 5 décembre avec un programme singulier, riche et fort, où il y a toute votre cinéphilie, vos collaborateurs, vos acteurs. Merci beaucoup. Réalisation de cette émission, Laurent Thomas, Claire Destacant, préparation Christophe Magère. Et supervision musicale Thierry Dupin, tout est sur notre site, Laurent.
Franceinter.fr, bien sûr, vous vous y précipitez.
Au revoir. Merci.